Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On dit souvent que Jésus ne fait pas de politique. Alors si l'on entend qu'il ne s'est jamais lancé en campagne pour conquérir le pouvoir, évidemment ça semble assez sauter aux yeux. Il s'est toujours tenu, Jésus, éloigné des affaires de son temps, des affaires politiques j'entends. Il n'a vraisemblablement rencontré les instances de gouvernement que sont le Sanhédrin, le roi Hérode et le procurateur romain, l'envoyé de César, qu'à la fin de sa vie. En tout cas, l'Écriture ne nous en dit rien antécédemment, à la fin de sa vie, et on sait très bien que ce qui est advenu de cette rencontre, il n'a même pas pu négocier quoi que ce soit, il en a subi la condamnation et il a fini crucifié. Ce n'est donc pas le Seigneur, un chef de parti. Et si toutefois une quelconque ambiguïté devait subsister à cet égard, si l'on continuait à croire que si Jésus a voulu prôner une sorte de système politique nouveau et qu'il a pris la tête d'une poignée de la population pour tenter d'en finir avec les institutions juives et romaines, si on avait toujours ça qui nous trottait dans la tête, il suffirait de regarder les paroles du Seigneur bien connues « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Existent donc toutes les récupérations du christianisme par les idéologies marxistes, fascistes et j'en passe. Si par contre, on entendait par « Jésus n'a jamais fait de politique » le fait qu'il ne se serait jamais prononcé quant aux grands principes d'organisation de la cité, alors là, on serait en porte-à-faux avec l'évangile d'aujourd'hui. Parce que l'évangile d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est sinon une leçon de politique, une grande leçon de politique qu'il administre à son auditoire. Que fait ici le Seigneur, sinon, d'une part, dénoncer une certaine manière de faire de la politique, et d'autre part, promouvoir la seule politique qui vaille, qui passe par Dieu et qui passe par le Christ. Dans un premier temps, donc, le Seigneur Jésus balaie d'un revers de manche, après l'avoir mise en lumière, la politique partisane à laquelle se livrent les pharisiens et les hérodiens. Politique faite de calculs et d'hypocrisie, de calculs d'abord parce que pour accéder à une paix factice, et pour pouvoir, il faut bien le dire, mener leur petit business dans leur coin, ces hommes sont tout prêts à toutes les compromissions avec l'occupant romain, avec la dynastie illégitime des Iduméens, à laquelle appartient Hérode, qui n'a pas plus de sang juif que les trois quarts d'entre nous. Et parce qu'ils constatent, ces hommes-là, l'influence grandissante de Jésus dans le peuple, parce qu'ils comprennent que jamais Jésus n'entrera dans leur combine, ne se laissera embrigader dans leurs intrigues, voici qu'ils s'efforcent au fil des mois d'en faire quoi ? Un bouc émissaire. Voyez donc que Jésus n'est pas prêt à accepter d'être sacrifié en plus. Sans qu'on avoue le motif profond de cela, les intrigues, la compromission, il n'est pas prêt à se taire totalement quand on veut faire de lui le bouc émissaire qu'on sacrifie sur l'autel de la cohésion nationale, comme on dirait aujourd'hui. Et d'autre part, Jésus dénonce l'hypocrisie de ces gens-là, parce qu'ils viennent à Jésus en feignant la sympathie. Vous avez entendu comme moi les paroles toutes huileuses et toutes visqueuses avec lesquelles ils s'adressent au Seigneur Jésus. Ils dissimulent assez mal la haine qui est au fond de leur cœur, et ils n'ont en fait d'autre but que de le surprendre, de le mettre en contradiction avec César et de le mettre en contradiction avec les intérêts de la nation. C'est, pour parler en termes actuels, la politique politicienne partisane qui se trouve stigmatisée par le Seigneur Jésus. Il faut être très clair. Cette politique pour laquelle la fin justifie les moyens, celle pour laquelle n'apporte qu'assez peu la vérité, et celle qui se drape dans les plis sacrés du bien commun, mais qui en réalité défend tel ou tel intérêt partisan, si noble soit-il, fût-il le principe royal par exemple, tout ceci, le Seigneur l'écarte d'un revers de manche. La politique du bouc émissaire, la haine comme moyen d'en finir avec l'adversaire, parce que, et parfois c'est à raison, parce que cet adversaire est mauvais, qu'il promeut des lois mauvaises, le Seigneur n'en veut pas. Il va même plus loin, il n'en reste pas à cette seule dénonciation des calculs partisans, il y a plus grave à ses yeux encore que ces espèces de manigances navrantes de boutiquiers. Le Seigneur Jésus met en cause une revendication extrêmement grave de l'empereur qui est celle de se réclamer l'égal de Dieu. Voilà ce que Jésus dénonce, et c'est bien cela qui se passe à l'époque. César, qui ne s'appelait jusqu'alors que César, a pris le nom d'Auguste. Je vous en avais déjà parlé dans une homélie. Auguste, ça ne veut pas dire simplement la personne devant laquelle on doit faire révérence, le grand homme devant lequel on s'incline parce qu'il représente le principe monarchique, ce qui fut le cas par exemple de Louis Auguste. Louis XIV. Non, Auguste, dans la bouche de l'empereur, qui se traduit par Sébastos en grec, ça veut dire l'adorable. Pas adorable comme on trouve un enfant bien mignon, adorable parce qu'on doit l'adorer. On lui doit un culte. Voilà donc ce que revendique l'empereur à l'époque du Seigneur Jésus, et ça, c'est assez nouveau. Ça n'existait pas dans l'Empire précédent. D'où le fait qu'il se fasse appeler, selon la littérature officielle, le sauteur en grec, sauter, le sauveur. Il se prend vraiment pour celui qui vient sauver l'humanité. Normalement, le terme de sauter en grec, dans la version grecque de l'Ancien Testament, est réservé à Dieu seul. Et l'empereur sait ce qu'il fait lorsqu'il s'applique à lui-même ce terme de sauter. Bref, Jésus semble dire à ceux qui sont en face de lui, les juifs qui sont en face de lui, et qui collaborent avec l'empereur, ne vous y trompez pas, lorsque vous soutenez, lorsque vous prêtez un concours actif à César qui se prend pour l'adorable, qui se prend pour le sauveur, et qui n'a rien d'un prince inoffensif, c'est en réalité un acte d'irrévérence à l'égard du seul Dieu que vous entendez révérer par ailleurs. Un jour viendra, ne vous y trompez pas, où cet empereur ne se satisfera plus de lever le seul impôt que vous encouragez à payer. Mais un jour, il entendra que vous l'adoriez vous-même et que vous délaissiez le seul vrai Dieu que vous servez depuis des siècles. Est-ce que ces paroles du Seigneur Jésus, évidemment là j'interprète ce que dit Jésus, mais tout cela je crois est présent de manière implicite dans ce qu'il dit à ces hommes, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une clairvoyance par rapport à ce qui se passera dans l'avenir? En 70 après Jésus-Christ, le temple est rasé par l'empereur Titus. Et évidemment, les livres d'histoire n'en retiennent qu'un motif politique. C'est parce qu'ils ne voulaient pas d'un soulèvement de cette petite contrée de Judée. Ils craignaient que cela mette la région orientale de l'Empire en difficulté. Et plus tard, que le feu soit mis à la poudrière de l'Empire. Bien sûr, celui qui n'aurait que des yeux humains et un regard naturel retient cela. Mais en réalité, qu'est-ce qui a fait que Titus a écrasé sans vergogne le temple de Jérusalem? C'est que se prenant pour un dieu, il était content de pouvoir mettre hors course la vénération séculaire de ce seul vrai Dieu qu'on appelait Yahvé. Vous voyez, cet empereur ne s'est pas arrêté à l'écrasement du peuple de Jérusalem et du temple de Jérusalem, mais il a voulu également persécuter cette secte qu'on prenait pour des juifs et qui étaient les premiers chrétiens, à travers un certain nombre de vagues de persécutions que l'on sait sous Dèce, sous Néron, sous Dioclétien. Voyez donc que Jésus voyait très clair, et ces pauvres juifs de son temps, qui croyaient être fine mouche, en réalité faisaient le jeu de cet empereur. Ici, Jésus met les élites compromises de son temps devant leurs responsabilités. Jamais on ne coopère impunément avec un pouvoir qui entend être adoré tel qu'on doit adorer Dieu seulement. Mais c'est valable à l'époque de Jésus, c'est valable à la nôtre, bien sûr. Vous voyez, ces juifs n'étaient pas conscients que leur compromission virait en fait à une véritable collaboration. C'était une collaboration active. Ils étaient infidèles à leur vrai Dieu. Quoi qu'ils en aient par ailleurs, il est évident que ni les Hérodiens, ni les membres du Sanhédrin, ni les pharisiens, ni les sadducéens ne croyaient en la divinité de l'empereur. Il faudrait être sot pour le croire. Néanmoins, par leur coopération active, ils provoquaient le scandale. Ils laissaient l'empereur s'imposer petit à petit, alors qu'une bonne résistance façon Maccabée aurait peut-être permis de déstabiliser l'empereur. Et d'autre part, eux qui étaient l'élite du peuple juif, provoquaient le scandale dans la mesure où ils faisaient croire par leur conduite, par leur coopération active, en faisant le lit de l'empereur, ils faisaient croire au peuple qu'il était légitime de soutenir celui qui se prenait pour Dieu sur terre. Vous voyez mes frères que ce risque-là existe à toute époque. Et le principe que le Seigneur nous demande d'appliquer, c'est celui de la prudence politique. À toute époque, notre silence vaut compromission, notre silence vaut acquiescement devant tout pouvoir qui revendique le monopole de l'adoration. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de vivre? N'est-ce pas ce qui s'est vécu, bien sûr, sous l'Empire soviétique, bien sûr sous le Reich nazi, mais également aujourd'hui d'une manière larvée, sous cette espèce de démocratie totalitaire qui entend nous imposer toutes sortes de loisirs et surtout écarter le culte du vrai Dieu. Relisez Vincent Peillon, la Révolution française n'est pas terminée, refondez l'école de nos enfants, vous aurez des lignes assez instructives à cet égard. Vous me direz, mais ça regarde notre hiérarchie catholique qui, comme on le sait, ne cesse de se compromettre, qui a demandé après le ralliement à la République fin 19e, désormais demande le ralliement à toutes les idées nouvelles. Et après le culte de l'homme par les droits de l'homme, finalement voici qu'on nous demande de nous taire et de nous terrer, de faire de notre religion et de notre foi en Dieu une seule affaire de la sphère privée. C'est vrai que certains évêques, dont on se demande si par ailleurs ils ne se réunissent pas de temps à autre dans certaines officines bien connues, font la promotion de cela, d'une coopération active qui les compromet totalement, qui voudrait tout fusionner au profit du pouvoir temporel. Mais mes frères, je crois que à notre simple échelle, nous avons nous aussi à nous poser la question de savoir si oui ou non notre silence ne nous compromet pas. Dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de la politique locale, il est parfois très tentant de se taire, de laisser passer telle ou telle mesure que l'on entend promouvoir et qui est inique au regard de la vraie religion, sous prétexte que, en se compromettant avec telle ou telle, un peu plus tard, la vérité, bien sûr, pourrait éclater. Nous pourrions, vous voyez, nous servir de telle ou telle partie politique, en gros, qui soutient un programme inique, pour accéder au pouvoir et enfin, bien sûr, restaurer la chrétienté. Ça, c'est, je crois, la naïveté du chrétien de base, et nous ne sommes pas toujours exempts de ce genre de naïveté. D'autre part, il serait tentant de se dire, bon ben, si les risques sont tels, si le Seigneur vient fustiger la politique partisane, si très facilement nous pouvons sombrer dans la coopération active à ce pouvoir inique, alors le mieux qui reste à faire pour le chrétien, c'est de se retirer du jeu politique, de se retirer de la vie publique, de la vie de la cité, pour en rester à son domaine familial, à son domaine entrepreneurial, ou dans la simple devoir d'État qui est le sien, couramment. Vous voyez, cette espèce de réflexe du pur, qui pour ne pas se salir les mains, et surtout pour ne pas se compromettre, se retire totalement de la vie politique. Bien sûr, pour éviter que nous tombions dans un tel travers, le Seigneur affirme ce principe fondamental, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à César ce qui est à César. Ça veut dire ne vous retirez pas du jeu politique, c'est ce fameux principe de séparation, de distinction des pouvoirs temporels et spirituels. Le Seigneur nous demande de coopérer, mais une coopération autant que nous le permet le droit naturel et les principes de notre sainte religion. Il faut coopérer dans une certaine mesure avec le pouvoir en place. C'est ce à quoi appelle Saint Pierre, c'est ce à quoi appelle Saint Paul, c'est ce que le Seigneur promeut lui-même lorsqu'il paye le tribut à César, en demandant à Pierre d'aller pêcher un poisson, y trouvant une pièce, de verser le tribut. J'avoue que c'est un peu étrange comme mode de fonctionnement, et puis j'aimerais bien trouver ce poisson en question de temps à autre, mais voilà, peu importe, le Seigneur est soumis au prince, dans une certaine mesure, pour ne pas créer pire que l'État qui est celui sous lequel il est né, pour ne pas provoquer le chaos, pour ne pas provoquer la jungle dans laquelle les choses seraient encore pires que sous la botte de César. Mais en même temps, le Seigneur nous dit « rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est-à-dire que nous ne pourrons rendre à César exactement ce que nous devons lui rendre selon le plan de Dieu, que si d'abord nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Nous nous plaignons de la situation politique actuelle et nous avons raison. Nous nous plaignons de nos gouvernants, nous nous plaignons des lois iniques qui sont promues aujourd'hui. Mais mes frères, où en sommes-nous de notre relation à Dieu? Est-ce que vraiment nous cherchons à rendre à Dieu tout ce qui lui est dû? Et tout ce qui lui est dû, ça veut dire tu adoreras Dieu plus que tout, tu l'adoreras seul, tu l'aimeras plus que tout, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Vous voyez toutes ces choses qui font que, enfin, qui nous incitent à avoir une vie spirituelle profonde. Si vraiment nous avons cette vie d'intimité avec le Seigneur, alors nous aurons les yeux mêmes de Jésus sur toutes choses. Nous aurons la capacité, par les vertus surnaturelles de prudence et de justice, de force, de tempérance, nous aurons la capacité de tenir face aux princes iniques. Nous aurons le bon sens qui permet de savoir jusqu'où coopérer avec le prince sans nous compromettre. Si nous prions notre Dieu pour nos gouvernants, alors ces gouvernants se convertiront. Croyons-nous en la force de la prière, plus qu'en la capacité humaine de contester, de manifester comme nous l'avons fait, c'était nécessaire. Croyons-nous en tout cela? Je ne crois pas. Je pense que nous avons une foi qui est encore insuffisante et une relation à Dieu qui, bien sûr, ne nous permet pas encore de mettre au pas César. Mais finalement, je me satisfais de ces quelques mots en guise de conclusion, mes frères, pour vous inciter à méditer, mais pour m'inciter moi-même à méditer, encore une fois, plutôt que soit de fuir le contexte actuel, en se disant qu'après tout, tout est foutu, ce qui est un péché contre la Providence, c'est une sorte de blasphème contre le Saint-Esprit, ou au contraire, d'entrer dans la mêlée armée, casquée, et de jouer le même jeu que les autres, bouclier contre bouclier, glaive contre glaive, ce qui ne sert de rien. Le Seigneur a dit que celui qui sortait le glaive périrait par le glaive. Cette troisième voie, mes frères, que promeut le Seigneur aujourd'hui, elle est assez simple. Nous voulons que les choses aillent bien, nous voulons que César revienne à sa juste place, et nous voulons que la cité soit enfin une cité de paix qui permette à chacun de faire son salut en suivant les règles divines. Eh bien, mes frères, sacrifions-nous pour la cité. Sacrifions-nous pour la cité. Offrons notre temps à Dieu et intercédons pour les princes. Plutôt que de les détester, ce qui est un réflexe normal, mais trop humain, naturel, demandons à Dieu, supplions Dieu de convertir le cœur de François Hollande, de Taubira, de Peillon et du reste de cette classe politique qui semble perdue. Offrons-nous en holocauste, mes frères, offrons-nous en bouc émissaire. C'est bien ce qu'a fait le Seigneur Jésus pour son peuple, quelques mois après cette dispute, et c'est ce à quoi il nous appelle. Offrez-vous en holocauste d'amour. Avouez que c'est une solution à laquelle nous n'aurions peut-être pas trop songé spontanément. C'est pourtant ce que nous demande le Seigneur. Rends à Dieu ce qui est à Dieu, et alors tu sauras rendre à César ce qui est à César, et César lui-même suivra la voie divine. C'est ce que les premiers chrétiens, sans doute, par la fécondité de leur sang versé, par dizaines d'hectolitres, ont réussi à faire face à l'Empire. Constantin, en 312-313, tolère le christianisme et à la fin de sa vie, sur son lit de mort, demande le baptême. C'est possible. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.